cintre. Le cintre agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est le seul objet qui agresse l'homme par pure cruauté. Le cintre est un loup pour l'homme. Il y a des objets qui agressent l'homme parce que c'est leur raison d'être. Prenez la porte. Non, une porte, c'est un exemple, partez pas, moi. Prenez la porte. Bon, il arrive que l'homme prenne la porte dans la gueule, hein. Bon, non, mais il n'y a pas là la moindre trace d'agressivité de la part de la porte à l'encontre de l'homme. Simplement, l'homme prend la porte dans la gueule parce qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou bleue. Hein? Le cintre, lui, est foncièrement méchant. Personnellement, l'idée d'avoir à l'affronter m'est odieuse. Il arrive cependant que la confrontation homme-cintre soit inévitable. Quelquefois, plus particulièrement au temps froid, l'envie de porter un pantalon se fait irrésistible. L'homme prend alors son courage et la double porte du placard à deux mains. Il est seul, il est nu, il est grand. Son maintien est digne face au combat qu'il sait maintenant inéluctable. Son buste est droit, ses jambes...
sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien, moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, libre et combat.
Nietzsche.
Je porte un toast à tous ceux qui on luttait pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse. Autour du garrot.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire, Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité. Et c'est l'émission Idéaux et débats du jour qui commence. C'est la dernière émission de l'année avec des écrivains. On va parler de plein de livres. On va commencer par une interview d'Anne Goscinny qu'on a eu le grand plaisir de retrouver pour son dernier roman qui est paru chez Grasset et qui s'intitule « Mille façons d'aimer ». C'est un roman très sensible et qui, moi, m'a énormément touchée. Donc je remercie encore Anne Goscinny d'avoir accepté cet entretien. Voilà pour la première partie de cette émission. Ensuite, il y aura deux chroniques. Il y aura la chronique de Gérard Guégan, bien sûr, qui nous revient régulièrement et qui, là, revient avec un ouvrage de Frédéric Schifter où il est question du travail. Et à cette occasion, il nous parlera également d'un livre qui était paru il y a un certain temps maintenant, et qui était un livre d'Yves Le Manac qui s'appelait « Bye bye Turbin ». Voilà, donc ça c'est pour le programme de Gérard Guégan. Et puis moi aussi, je me permettrai de faire une chronique pour parler de livres dont je n'avais pas eu l'occasion de parler avant. Il y en a trois différents et trois qui peuvent se lire en cette période d'hiver où les jours sont si courts. Le premier, c'est un roman graphique de Sébastien Goethals et Philippe Collin qui est paru chez Futuropolis et qui s'intitule « L'escamoteur ». Le second, c'est un très beau livre consacré aux oiseaux qui s'appelle « À toute plume » de Cookie Allez, qui va rocher Art 3. Et enfin, il s'agit d'une réédition, puisque c'est le plaisir de retrouver le livre de Pierre Lepape, qui s'appelle « La disparition de Sorel », qui était paru il y a quelques années et qui la ressort aux éditions Artois Presse Université, avec une très très belle préface de Pascal Horry. Programme chargé, on commence tout de suite, on retrouve Anne Goscinny, « Mille façons d'aimer », c'est paru chez Grasset. Toujours pour Radio Libertaire, c'est l'émission Idéaux et Débats, avec le plaisir de retrouver Anne Goscinny pour un nouveau roman qui est paru chez Grasset et qui s'intitule « Mille façons d'aimer ». Alors moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée parce que on ne sait jamais quoi faire de nos morts. C'est quelque chose de compliqué et comme vous l'évoquez dès le début du livre, Anne Goscinny, mettre les morts en mots, c'est quelque chose de particulièrement ardu. Et le livre commence par le fait que votre éditeur vous refuse un manuscrit.
Absolument, ça a été une espèce de d'expérience initiatique. C'est un peu un pléonasme, expérience initiatique, mais je l'assume. Parce que c'est mon 9e roman pour adultes, puisque je suis l'auteur aussi d'une série pour jeunes ados qui s'appelle Le Monde de Lucrèce. Mais c'est quand même mon 9e roman. Et ça m'était jamais arrivé. Donc, c'est particulier. Donc, première version, il m'envoie un mail en disant, Anne, je suis désolée, je pensais pas un jour avoir à t'écrire ce type de message, mais là ça va pas, on peut en parler si tu veux. Donc, je me précipite sur mon téléphone, tétanisée d'horreur, hein, parce que j'avais mis 30 ans à écrire ce livre, et voilà. Et on a déjeuné ensemble et il m'a expliqué que la structure n'allait pas, qu'on comprenait pas très bien qui était vivant, qui était mort, et oserais-je dire que moi non plus, parfois je comprends pas très bien qui est vivant, qui est mort. Et en fait, ce qu'il m'a dit reflétait parfaitement mon état d'esprit quand j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire faire de Raphaël, du personnage du jeune homme qui meurt, hein, c'est pas, je divulgue rien puisqu'il meurt au début, en faire finalement une espèce de fantôme bienveillant et toujours de ce monde, quoi. Donc, mon éditeur Christophe Bataille m'a dit, écoute, je comprends ce que t'as voulu faire, mais ça marche pas, très bien. Donc, je remets l'ouvrage sur le métier, j'écris une deuxième version, je dis bien deuxième, puisque si on n'avait pas eu de troisième, j'aurais dit seconde, malheureusement, il y en aura une troisième. Et là, je lui envoie et il me dit, je suis désolée, mais là, c'est du théâtre, il y a beaucoup trop de dialogues. Après, si tu veux faire du théâtre, c'est ton problème, mais nous, on publie pas, enfin, ce sera pas un roman, quoi. Donc, il faut refaire. Et me voilà en train d'écrire une troisième fois ce texte. Et je l'envoie dans un état désespéré, vraiment. Enfin, je veux dire, j'avais l'impression d'avoir écrit un très bon livre dès le départ. C'était pas le cas. La deuxième fois, je me suis dit, le livre est pas très bon, il est génial. Ce qui me ressemble pas du tout en plus. Mm-hmm. Hein, je suis pas du tout sûre de moi ni rien. Et c'était pas le cas. Et voilà. Et le 23 mars à 18h15, je reçois un mail. C'est gravé dans ma tête parce que l'expérience a été douloureuse. En me disant, bah bravo, c'est ton meilleur livre, voilà le contrat. Et là, j'étais avec mon fils qui a 23 ans dans ma chambre, on regardait la télé, et je vois le mail et j'éclate en sanglots. Et le gosse me dit, me dit, oh là là, j'appelle papa, et j'entends qu'il appelle son père dans l'appartement, il dit, papa, il y a maman qui pleure, il y a encore un mort. Voilà. Et je dis, bah, justement, non, il y a pas de mort, mais il y a quelqu'un qui vient de, peut-être de ressusciter, qui va ressusciter sous la couverture jaune de Grasset. Donc, c'est tout ça pour vous dire, ce sont des détails qui peuvent paraître très anecdotiques et qui le sont, mais pour vous dire que ça a été un vrai, vrai parcours du combattant. C'est la première fois que ça m'arrive.
Oui, mais non, je trouve ça au contraire très éclairant et pas du tout anecdotique, parce que de par cette expérience que vous nous racontez, Anne Goscinny, qui a abouti à Mille façons d'aimer, donc publiée chez Grasset, ça met en évidence cette difficulté qu'on a à pouvoir mettre dans un livre les gens qu'on a aimés une fois qu'ils sont disparus. Et c'est la question de leur trouver la juste place. Et ce que vous évoquez dans le parcours, le fait que la première version, il n'était pas mort, pas vivant, c'était une espèce de spectre, de fantôme bienveillant qui vous accompagnait, montre que sa place n'était pas très claire. Après, le côté théâtre, c'est le fait de pouvoir poursuivre une discussion avec ceux qui se sont tus. Et là, Mille façons d'aimer, c'est autre chose. Parce que Raphaël, on va l'évoquer, est extrêmement présent, mais c'est votre histoire à vous. C'est une vivante qui parle.
Oui, oui, c'est mon histoire à moi, mais c'est notre histoire à tous les deux aussi, en fait. Voilà, c'est évidemment, vous l'avez compris parfaitement bien, c'est une histoire vraie, malheureusement, qui me fait penser, alors toute proportion gardée et avec beaucoup d'humilité et de modestie, à une phrase que disait Barbara dans son dernier tour de chant à propos de la chanson Si d'amour à mort. Elle commençait son tour de chant en disant « Voilà une chanson que j'aurais aimé ne jamais avoir écrite. » Et encore une fois, toute proportion gardée, je me compare pas à l'immense Barbara, bien entendu. C'est un livre que j'aurais aimé ne jamais avoir écrit. En fait, Raphaël, qui ne s'appelait pas Raphaël, est mort 2 mois et 1 jour après ma mère. Ma mère avait 51 ans, lui en avait 25, on avait 25 ans. Et autant la mort de ma mère, qui était malade depuis 17 ans, c'était quelque chose à laquelle je m'attendais. Voilà, c'est une mort longue et douloureuse et terrifiante, en fait. La mort de mon ami, de mon âme sœur, de mon frère d'âme, ça a été horrible. Il est tombé malade sans doute en juin. Ça a été avéré en septembre. Ça a été vérifié en septembre et il est mort en avril. Donc j'ai eu à peine quelques mois pour accepter l'inacceptable.
Ça c'est une chanson que j'aurais vraiment aimé ne pas avoir écrite. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer, sans mourir d'amour, sida, sida, né. Elle est année d'amour, à mourir d'aimer, ils sont morts d'amour, d'amour, sida, né. Oh, sida. Sida, sida, danger, sida. Oh, sida, sida, amour à mort. Oh, sida, sida, assassin recherché. Mais qui a mis l'amour à mort? Mon amour malade, ma douleur d'aimer. Mon damné d'amour. Sida, sida, né, à vouloir t'aimer, d'amour à mourir, j'en mourrai peut-être, sida, assassiné, oh, sida, sida, comme le furet, passer par ici, repasser par là, oh, sida, 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 à mort. On rêvait d'amour, à mourir d'aimer. Et l'emmerde d'amour, sida, sidané. Maladie d'amour, où l'on meurt d'aimer. Seul et sans amour, sida abandonné. Si s'aimer d'amour, c'est mourir d'aimer. Sans mourir d'amour, sida, sida né. L'étalé d'amour, à vouloir s'aimer. Ils sont morts d'amour, sida, assassiné.
Et j'ai mis 30 ans à pouvoir écrire ce texte. Et comme je dis à un moment dans le texte, un mot par dizaine. Raphaël est mort. Trois mots, trois dizaines. Et c'était vraiment très compliqué. Et j'ai beaucoup entendu quand ce livre est sorti. Bon, il n'est pas sorti depuis longtemps. Il y a 15 jours qu'il est sorti. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais je trouve que c'est l'expression la plus débile de l'histoire.
Oui, ça, il y a que les gens qui n'ont rien vécu pour pouvoir dire ça.
Voilà, exactement. Moi, je trouve que ce qui ne tue pas fragilise. Oui. Et j'avais perdu mon père à 9 ans et ma mère de cette maladie terrible à 25. Et à la mort de Raphaël, sincèrement, je me suis souvent comparée à un vase complètement fêlé qu'on avait laissé tomber, qui avait été rafistolé, recollé, etc., qui pouvait toujours faire son office de vase, au sens où on pouvait toujours mettre de l'eau et les fleurs pourraient s'épanouir dedans, mais il suffirait de pas grand-chose pour que les 1000 morceaux repartent en éclats et là que le vase soit jamais inutilisable. Mmh. Et vraiment, je me faisais penser à ça, quoi. Et 30 ans plus tard, alors je suis peut-être très lente dans l'évolution, hein, je l'admets, mais 30 ans plus tard, je n'ai pas beaucoup progressé. Je me sens toujours ce vase ultra fragile. Donc, ce qui ne tue pas fragilise.
Mais 30 ans plus tard, vous avez réussi à l'écrire.
J'ai réussi à l'écrire et d'après ce que j'entends des retours, dont le vôtre qui compte beaucoup pour moi, je pense que j'ai réussi ce pari fou de faire passer cette émotion intime et pourquoi pas de la rendre universelle, pourquoi pas.
Oui, c'est tout à fait ça, parce que y a plusieurs niveaux de lecture qui génèrent l'émotion. Anne Goscinny dans Mille façons d'aimer, déjà parce que c'est une superbe histoire d'amitié et ça c'est quelque chose de très très fort, parce que habituellement, les histoires d'amitié sont écrites de manière, assez factuelle, assez plaquée. Et là, vous donnez à entendre une autre musique. On en parlera dans quelques minutes. Et puis, parce que ce deuil et cette manière dont vous avez, que vous utilisez pour le raconter, ces pertes successives, le fait de se retrouver orpheline de tout et de tout le monde, ça nous renvoie aussi à nos morts. J'ai beaucoup pensé à Delphine Horviller et à son livre « Vivre avec les morts » qui est un livre qui m'a touchée aussi énormément. Mais c'est ça, je crois que la mort devient tellement tabou ou tellement, utilisée avec un vocabulaire de communication qu'on n'en parle plus vraiment. Et vous, avec ce roman, vous en parlez vraiment.
Mais en fait, j'ai vu très jeune, trop jeune sans doute, La Chambre verte de François Truffaut. Et j'ai été absolument emportée par ce film. que j'ai sans doute idéalisé. C'est très bizarre, je crois que c'est le seul film où ça m'a fait ça, mais j'ai sans doute dans ma tête d'orpheline réécrit mille fois ce film, retourné mille fois ce film, parce que dans la conception que François Truffaut développe de la mort, on est dans une espèce de mort figée et de mausolée. Où il allume des bougies, enfin c'est une espèce de mausolée géant. Et moi j'ai la faiblesse de croire que les morts qu'on met en livre, c'est l'inverse d'un mausolée. Ce sont des morts finalement qui continuent à vivre. À propos de vivre, j'ai aussi bizarrement dans ce livre souvent pensé à Cocteau et à son Orphée. Quand dans le film Orphée, la mort, Orphée demande à Maria Cazares qui est la mort, mais pourquoi vous utilisez les miroirs pour passer de l'autre côté? Et Maria Cazares lui répond, mais regardez-vous dans un miroir toute votre vie, vous verrez la mort travailler. Et en fait, cette phrase m'a accompagnée, je sais pas pourquoi cette phrase, tout au long du livre, puisque mon ami Raphaël ne s'est pas beaucoup regardé dans un miroir, pas assez longtemps. Et moi, tous les jours, je me réveille en me disant que j'ai la chance d'avoir 56 ans et d'avoir survécu à mes parents qui sont morts tous les deux à 51 ans. Raphaël, qui est mort à 25 ans, à ces trois piliers qui étaient les trois piliers de ma vie, quoi. Et tous les jours, je suis contente de regarder la mort travailler en me regardant dans un miroir. Mmh. Et c'est vrai, on voit une ride, on voit un truc qui va pas, on voit la mort en chemin. Mais finalement, c'est une douce promenade quand la mort arrive, quand elle doit arriver. Mmh. Ce qui, à 25 ans, n'est pas le cas. Mmh. Et dans ce livre, je me mets furtivement à la place de sa mère, que j'ai bien bien connue, comme vous le comprenez. Et ça a été une expérience presque, j'allais dire mystique, pas mystique, mais un peu surnaturelle, parce que j'ai eu tous les passages où je parle pour sa mère, j'ai eu l'impression d'être habitée par sa mère. Mmh. C'est-à-dire, moi aussi, j'ai un fils qui va avoir 24 ans, et l'inimaginable est impensable, en fait. Et voilà. Donc, ça a été un livre très compliqué à écrire sur un plan intime, compliqué à écrire sur un plan formel, sur un plan presque social, puisque quand mon éditeur m'a dit non la première fois, ma vie sociale, entre guillemets sociale, s'est arrêtée complètement. C'est-à-dire que je n'ai plus pensé qu'à ce livre. J'ai tout annulé, j'ai tout refusé, j'ai annulé des vacances, des dîners, des... Je me suis plus concentrée que sur ce texte qui est court, hein, qui fait 160 pages. Voilà.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier où deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise, alors l'amour et l'amitié n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, ils ont barbelé des frontières. Nos sentiments étiquetés, et si on aime trop sa mère, ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en nos troubles, qu'on est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. À alors que l'amour et l'amitié ont la même gueule d'innocence. Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires gras de haine. Bon an, mal an, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Se cache un petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami.
Oui, alors, ce texte, bien sûr, la mort y est extrêmement présente, de par ses deuils successifs, de par le fait que ça se passe le jour de l'enterrement de Raphaël, et qu'il va y avoir ce cheminement qui est un vrai chemin tout au long de la journée, on en parlera. Mais c'est un livre où la vie est extrêmement présente aussi. Et c'est ça aussi qui m'a intéressée, c'est qu'il n'y a pas que ce côté sombre, il y a aussi le côté lumineux de cette amitié. Et vous jouez en permanence dans l'écriture du livre sur le contraste entre ces moments extrêmement forts d'amitié, quelque chose d'une, mais absolument magnifique, mais des amitiés comme ça, c'est une amitié ordinaire, elle a rien d'exceptionnel, mais vous la décrivez de telle manière que on en perçoit toute la force. Et ça, c'est la vie qui reste, c'est Raphaël qui reste.
Oui. Disons que c'est une amitié que nos histoires respectives nous ont permis d'éprouver jusqu'au bout du bout, quoi. C'est-à-dire que on a tous un meilleur ami, une meilleure amie. On a tous quelqu'un qui est privilégié ou que nous privilégions dans une relation très forte. Mais là, on s'est rencontrés avant la première année de maternelle, puisqu'on habitait le même quartier, que les mamans nous promenaient dans des landaux. À l'époque, c'était des landaux ou des poussettes. Dans le jardin public du quartier, et puis les hasards de la programmation entre guillemets des classes a fait en sorte que on soit dans la même classe de la première année de maternelle à la terminale.
C'est exceptionnel.
Mais indépendamment de ça, on s'est aimé tout de suite, comme je le dis dans le livre, dès la première année de maternelle, puisque très vite. Très vite, on s'est aimé comme s'aiment les aimants. Les aimants qui n'est pas le participe présent du verbe aimer là, qui est l'aimant métallique. On s'est aimé comme ça, comme des fous. Alors il y a des gens qui me disent mais est-ce que tu n'as pas décrit là une histoire d'amour? Mais c'est je pareil. Dis dans le texte. Bon, oui, non, mais je dis dans le texte à un moment donné que l'amitié prend le relais de l'amour quand l'amour a trouvé ses limites. C'est-à-dire que nous, on pouvait s'engueuler 200 fois dans la journée sans que jamais ne soit remise en question l'amitié folle qui nous liait. C'était pas grave.
Le lien est là. Le lien
le lien est là et pour toujours. Et j'ose dire, je suis mariée depuis 25 ans, j'ose dire que c'était un lien plus fort qu'un lien conjugal. Parce qu'un lien conjugal, on n'est pas à l'abri d'une... moi, j'ai 56 ans et je l'ai fait. d'une ravissante russe de 22 ans, Brenda, ou je sais pas comment l'appeler, Natacha, qui va se pointer et qui va faire en hauteur ce que nous on fait en largeur. Et voilà, et qui va emballer le mari, qui va se découvrir tout d'un coup un sexapil qu'il a plus pour nous, quoi. Donc l'amour a des limites, l'amitié à ce point n'en a pas. C'est ça que j'ai voulu dire aussi, que j'ai voulu montrer. Et c'est très compliqué de perdre quelqu'un dont on sait que l'affection, duquel on sait que l'affection n'aura pas de limite.
Oui, l'amour a des enjeux et s'inscrit dans une dimension temporelle qui se poursuit. L'amitié n'a pas d'enjeux et il n'y a pas la notion de temps.
Et je pense, pour en avoir vécu quelques-unes, malheureusement, que les trahisons d'amitié font bien plus mal que les trahisons amoureuses.
Alors, c'est aussi pour ça que le livre s'appelle « Mille façons d'aimer ».
Ouais, c'est mon éditeur m'avait dit tu verras, je pense que le titre est dans le texte. Alors moi, j'avais repris le texte et j'ai fait, je sais pas, 40 propositions. Et il m'a dit non, c'est pas ça, on n'y est pas. Et il m'a dit finalement, regarde à la fin du texte, tu vas voir, je suis sûre que c'est là. Et c'est lui qui a trouvé « Mille façons d'aimer » qui est dans le texte. Mmh. Je crois que je dis « Il y a mille façons d'aimer, chacune nous est propre et assignée ». Et voilà, et c'est vrai que l'amitié est une des plus belles façons d'aimer. Voilà.
Alors, « Mille façons d'aimer », c'est paru chez Grasset et c'est de Anne Goscinny. Quand j'évoquais aussi le fait que la vie était présente au même titre que la mort, il y a une scène qu'on peut évoquer sans déflorer tout le livre, c'est la scène du dernier réveillon. Parce que je crois qu'elle est particulièrement représentative. C'est une scène où vous êtes trois, où il y a votre mère, où il y a Raphaël et où il y a donc la narratrice. Et les deux savent que leurs jours sont comptés, que cette année nouvelle qui commence ne s'achèvera pas pour eux. Et ça donne un repas absolument incroyable.
Incroyable. Il y a du côté du Carrefour de l'Odéon, une brasserie. Le Nouvel An, c'est l'époque où il neigeait au Nouvel An, donc il neige, il fait froid, un froid polaire, et ils sont là tous les deux comme tels que je les vois, un peu éméchés par trop de champagne, trop de vin pour le réveillon, comme deux fantômes déjà qui sont en salle d'embarquement et on est déjà plus sur le même plan puisque Ma mère mourra le 3 février, donc quasiment un mois après, et lui mourra 3 mois après. Et à un moment donné, moi, je sors de cette brasserie, j'en peux plus de cette pression, j'en peux plus de leur regard complice échangé entre ceux qui vont mourir et moi qui reste sur le bas-côté de leur destin désormais. Je sors et je sors en pull ou en t-shirt, comme toujours, et ma mère me dit « Attention, tu vas attraper la mort. » Et ils se regardent tous les deux, et ils éclatent de rire de ce bon mot, qui me fait pas rire, moi, que je trouve sinistre. Et voilà, c'est vrai que c'est une scène qui a été que j'ai écrite en 5 minutes, qui était vraiment gravée, et j'ai eu qu'à déverrouiller quelque chose pour la laisser filer, cette scène.
Ne plus vouloir se regarder et faire murer tous les miroirs, leur interdire de réfléchir l'image d'un sourire, otage d'un soupir. 25 bougies sous oxygène, une mort certaine pour avoir joué au coin d'un bois. Au creux de toi, tes lèvres rien qu'une fois, en rêve sous mon toit. Tu es citadelle dans ton château corps, pour une bagatelle condamnée à mort. Une étoile rose meurt à pastel. Pour un coup de cœur, pour pas grand-chose. Tu es puissance, même sans défense. Regarde ton enfance, retarde ton absence. Tu es positif et tu vas mourir. Tu es négatif, tu vas t'en sortir. Et la citadelle dans ton château corps, pour une bagatelle, se condamne à mort.
Mais il y a plein de moments comme ça où on sent, où c'est en plus extrêmement visuel, on voit complètement les personnages, parce que vous êtes très attentive, Anne Goscinny, à nous les présenter, à nous évoquer Raphaël, son physique, son amaigrissement, la manière qu'il a de s'habiller, très différent des autres depuis tout petit, avec sa volonté de devenir notaire. Donc on le voit, Raphaël, on le voit, et c'est ça aussi qui fait la force. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces éléments-là, cette sensorialité, on la retrouve aussi dans votre parcours jusqu'au cimetière, avec les différentes haltes, et ça a un côté effectivement chemin de croix, avec les différentes stations, mais qui sont des stations de vie, en fait.
Oui, qui sont des stations du souvenir.
Oui, du souvenir, du jus d'orange. Oui.
Oui, puisque chaque endroit où je m'arrête appelle un souvenir qu'on a pu vivre tous les deux ou convoque une impression, une sensation, une intuition et voilà, et je veux dire que dans tout ce que j'ai écrit, ce qui m'a paru presque le plus vivant, c'est ce concert de Barbara en chorale.
Et le au café. Châtelet. Et le café après.
Et le café après, où j'avais l'impression, alors ça c'est sans doute mon imagination de romancière, mais où j'avais l'impression que chaque chanson de Barbara était incarnée par cette femme aux doigts nus d'Andrault, par une rose rouge de Nantes, enfin, et qu'en fait, j'étais plus entourée d'un public, mais des chansons elles-mêmes. Et finalement, Raphaël, qui n'était pas particulièrement littéraire, qui n'aimait pas particulièrement les chansons, enfin voilà, qui préférait les bagnoles, je l'ai vu là comme je l'avais jamais vu avant, comme je le reverrai jamais après, touché en plein cœur par ses chansons. Voilà, c'était sa sensibilité qu'il a laissé apparaître très tard.
Alors,
puisque l'aveu de son homosexualité se fait auprès de moi très très tard. Enfin, je crois qu'on doit avoir 18 ans quand il me dit qu'il a jamais été attiré par les filles, que il s'était inventé une copine fille, une espèce de couverture. Voilà, enfin, il avait dupé tout le monde. Alors, c'était une autre époque aussi. Hein.
Oui.
Voilà, c'était une autre époque. C'était il y a presque 40 ans. C'était plus difficile pour les enfants de parler de ça auprès de leurs parents, des amis des parents. Enfin, il faut pas choquer vos auditeurs et il faut pas qu'ils se disent mais c'est quoi ces gens qui n'acceptent pas l'homosexualité. Non, c'était une autre époque. Il y a 40 ans, c'était pas la même chose.
C'était une autre époque et puis il y avait cet élément qui était très très important dans la badance, c'était la peur du sida. Ce que ça a pu déclencher comme mouvement dans la société.
Absolument.
Tous ceux qui ont vécu cette époque en gardent un traumatisme profond.
Absolument. Mais ça, alors je dis pas du tout que j'ai voulu faire œuvre utile avec ce livre. J'ai pas cette prétention.
Mais c'est le cas.
Mais c'est vrai que le SIDA, on n'en parle plus. Voilà, moi, mes enfants ont 21 et 23 ans, presque 22, presque 24. Il m'arrive de leur dire, et ils me disent toujours, ah, t'es lourde, laisse-nous tranquille, mais n'oubliez pas de vous protéger, quoi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que les gens de mon époque, peut-être de la vôtre aussi, mmh. on l'entendait tous les jours, à la télé, à la radio. Aujourd'hui, non. On a l'impression qu'on ne meurt plus du sida, ce qui est faux.
Oui, donc, et le nombre de contaminations augmente.
Voilà, donc, encore une fois, j'ai pas été mue dans l'écriture de ce livre par l'idée de faire œuvre utile. Pas du tout, mais je pense que ce serait pas complètement vain qu'on reparle de cette maladie.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur fasse foutent la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Alors, je crois que le plus simple, c'est de laisser nos auditeurs découvrir Mille façons d'aimer, Anne Goscinny. Donc, c'est paru chez Grasset. Mais moi, j'aimerais connaître maintenant que ce livre existe, qu'il est sorti, que Raphaël est connu des lecteurs. Votre ressenti ?
Bizarrement, je re-rêve de lui. J'habite de la chambre de mon fils, je vois sa chambre. Ça, je l'ai toujours... Et quand je passe devant chez lui, c'était quasiment quotidien. C'était quelque chose qui m'avait un peu passé. Je re-regarde où en est l'ascenseur par la porte vitrée. Je dis pas que ce livre l'a fait revenir, le fait revivre, mais moi, je suis pas sortie indemne de l'écriture de ce livre trois fois. Mais aussi de sa parution et du fait qu'aujourd'hui, Raphaël appartient au public et je reçois beaucoup par les réseaux sociaux ou par courrier beaucoup de témoignages de gens qui me remercient d'avoir écrit un livre sur l'amitié. Mmh. L'amitié, c'est presque un peu un parent pauvre en littérature. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de romans d'amour. Hein, c'est le... mais voilà, c'est une espèce de remerciement. Alors, c'est un mot un peu ancien, mais de remerciement à l'amitié, ce livre.
Alors, on va inciter vraiment à lire « Mille façons d'aimer ». C'est Dan Goscinny, c'est paru chez Grasset. C'est un vrai plaisir de lecture. J'ai pas voulu déflorer trop le livre parce que je crois qu'il faut se laisser porter par le texte, par les émotions qu'il génère, par les rires aussi. Je pense à l'histoire du psychanalyste qui m'a fait beaucoup sourire. On va pas dévoiler parce qu'il faut effectivement la découvrir, mais ne pensez pas que ce livre est un livre triste et morbide,
c'est un livre
de vie, voilà.
Et c'est vraiment une ode à la vie, ce livre, et à la vie qui ne s'arrête pas avec la disparition.
Tout à fait. Merci en tout cas de l'avoir écrit.
Merci à vous.
Vous avez déjà des projets ?
Des projets pour un prochain livre ?
Oui.
Oui, j'ai un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, et là j'essaye un nouveau truc. C'est que je n'écris pas pour qu'un jour mes doigts fourmillent de l'envie impérieuse de m'y mettre. Je veux voir ce que donne une espèce de torrent, en fait. Mm-hmm. Mais là, je sens que ça va pas tarder puisque ça fait des années que j'ai ce projet dans l'âme. Mais ce livre, Mille façons d'aimer, il fallait qui sortent l'année des 30 ans de sa disparition. Et ça y est, c'est chose faite. Et bizarrement, il est sorti, ce livre, la veille de son anniversaire. Alors qu'il y a 365 jours dans une année, et que quand l'éditeur l'a accepté, s'il m'avait dit il sort en janvier, il sort en mai, il sort, j'aurais dit oui, bien sûr. Et là, il est sorti la veille de son anniversaire.
Le hasard est taquin.
Exactement.
Merci beaucoup Anne Goscinny.
Merci à vous.
Mille façons d'aimer, c'est chez Grasset, c'est de Anne Goscinny.
Moi qui voulais de l'aventure, qui m'ennuyais à tout prix. Aujourd'hui, je peux dire que je suis servi par ta lettre de rupture. Je t'ai souvent dit des injures, tu m'en as fait voir aussi. Il faut faire avec, comme on dit. N'empêche que là, c'est un peu dur. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux, au revoir, adieu. Je suis pas certain d'être mûr pour apprécier le raccourci que tu me fais prendre entre nous, soit dit. J'aurais préféré l'usure. C'est la première fois, je le jure, qu'être positif, ça m'ennuie. Mais si c'est Elisa qui le dit, je me perds pas en conjecture. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux, au revoir, adieu. Il y a une chose qui est sûre, j'y reconnais mes amis, ceux qui s'indignent, ceux qui s'enfuient,
ceux qui se signent murmurent. Mais avec le noyau dur, ceux qui restent à mon sursis, je vais te bouffer, oh ma vie. Je boufferai même tes épluchures.
Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux, au revoir, adieu. Il faut se dire adieu, se dire au revoir. Ça dépend des dieux, au revoir, adieu.
Toujours l'écoute de Radio Libertaire, 89,4 MHz, et c'était donc Anne Goscinny qui nous parlait de Mille façons d'aimer, son dernier roman paru chez Grasset. Voilà, nous, on va parler de quelques livres maintenant, et j'espère que dans le lot, certains vous plairont. Radio Libertaire 89,4 MHz, Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, c'est toujours idéaux et débats. Et dans cette dernière émission de l'année, puisqu'on est déjà en train d'envisager la rentrée littéraire de janvier, il y a plein de livres dont on aurait aimé parler, qui sont sortis en septembre ou depuis, et qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer, parce que bon, une émission une semaine sur deux, c'est un format un peu difficile pour caser tout ce qu'on a aimé et tout ce qui a pu compter dans le domaine de la lecture et qui nous est passé sous les yeux. Alors là, il y a une petite séance de rattrapage pour quelques ouvrages que j'aimerais quand même évoqué. Le premier d'entre eux, c'est un livre un petit peu particulier, c'est un roman graphique qui est paru chez Futuropolis et qui s'intitule L'Escamoteur. Il est coécrit par Sébastien Goethals et Philippe Collin, et ce sont des auteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, et là, ils ont voulu, avec L'Escamoteur, aborder une histoire un peu difficile, puisque c'est l'histoire d'Action directe. Comment aborder cette histoire d'Action directe? C'est compliqué. Alors, ils ont choisi de faire un pas de côté en abordant cette aventure au travers d'un personnage qui est celui de Gabriel Chahine, qui était un artiste d'origine libanaise et qui va être le personnage principal du livre et qui va nous faire traverser un petit peu cette époque assez particulière. Ça s'appelle L'Escamoteur parce que L'Escamoteur, c'est aussi le titre d'un tableau de Jérôme Bosch qui était dans un musée de la région parisienne. Et il a aidé Action directe à s'emparer de ce tableau, à l'escamoter. Et ce choix d'appeler l'album, le roman graphique L'Escamoteur n'est pas sans intérêt, parce que ce personnage de Gabriel Chahine est un personnage complexe. Alors, c'est une histoire qui est absolument passionnante, mais au-delà du côté polar politique, moi, ce qui m'a intéressé, c'est le point de vue des deux auteurs, donc Sébastien Goethals et Philippe Collin, parce que tout au long de l'histoire, ils interviennent en tant qu'eux-mêmes, en se posant la question de savoir qui ils sont pour raconter cette histoire, est-ce qu'ils peuvent la raconter, et surtout comment la raconter. Alors, dès le départ, on saura pourquoi ils tiennent à la raconter, cette histoire, parce qu'il est question des origines d'un des deux auteurs, d'Eliette Bess, de gens qu'il a pu rencontrer. Et petit à petit, au fur et à mesure où ils vont creuser et mener l'enquête, parce qu'il s'agit d'une véritable enquête qu'ils ont menée, leur point de vue va être amené à changer.
Et c'est intéressant de voir ce cheminement dans la création du roman graphique, ce cheminement d'interrogation et de pensée par rapport à l'histoire. Et c'est cette prise de recul qui, moi, m'a le plus intéressée dans ce livre « L'escamoteur ». Parce qu'à aucun moment, il n'est question d'asséner des vérités ou d'avoir sa version propre. Non, non, toujours on sera dans le point d'interrogation. Et c'est ce qui fait la force de ce roman graphique. Alors, je vous le recommande parce que c'est un ouvrage intéressant. Peut-être que vous en aurez une autre lecture. Je crois que c'est un sujet, de toute façon, aux abords multiples. Mais L'escamoteur, donc roman graphique de Sébastien Goethals et de Philippe Collin, paru aux éditions Futuropolis, nous propose une vision intéressante. Le deuxième ouvrage dont je voulais vous parler et qui ferait également un très beau cadeau de Noël, c'est un livre de Cookie Alès. Alors Cookie Alès, on a l'habitude de la recevoir dans cette émission pour des romans. Là, il s'agit de quelque chose de complètement différent puisqu'elle publie aux éditions Art 3 un ouvrage intitulé « À toute plume » qui est un livre sur les oiseaux. Alors les oiseaux, on entend beaucoup parler parce qu'ils sont en train de se raréfier de plus en plus, surtout dans nos villes. Les oiseaux, ils sont partout, ils sont autour de nous et souvent, on n'en sait pas grand-chose. C'est comme les arbres, on voit, on peut dire arbre, on peut dire oiseau, mais quant à les identifier, c'est autre chose. Et pourtant, tous ceux qui sont cités dans cet ouvrage, il y en a 45 différents, 45 types d'oiseaux d'Europe, on les connaît et on se rend compte avec l'ouvrage de Cookie Alès que ces oiseaux, ils font partie de notre monde littéraire et poétique. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Alors, c'est pas un livre à lire d'une traite, c'est un livre à picorer. C'est-à-dire que moi qui aime beaucoup les hirondelles, même si le plus souvent ce sont des martinets et que j'ai été très longtemps à confondre les deux, je suis allée, si on prend cet exemple, quand on va à Hirondelles, on trouve beaucoup de choses. On trouve à la fois des petits fragments poétiques, un peu du style haïku. On trouve des explications sur ce que sont les hirondelles, d'où elles viennent, différentes sortes, justement la différence avec les martinets. Enfin, plein de renseignements assez riches et denses. Et en même temps, Cookie Alès n'est pas écrivain pour rien, elle nous emmène, et ça c'est le côté un peu savant et littéraire de l'ouvrage, elle nous emmène faire un tour dans l'histoire, dans la mythologie, dans la littérature, avec beaucoup de citations, et on voit par exemple que, pour revenir à nos hirondelles, qu'elles ont inspiré beaucoup d'auteurs qui les ont citées dans leurs ouvrages. Alors ce livre, il est jubilatoire. Il est jubilatoire parce que parler des oiseaux, parler du vivant, ça fait du bien dans un monde où on n'a plus trop l'habitude de parler de ce qui est et qui est là et qui est positif et qui fait du bien. Les oiseaux, ça chante. Et rien qu'entendre le chant d'un oiseau, ça met en forme. Alors écoutez les oiseaux et puis allez les découvrir, allez les retrouver dans leur chant, dans leur apparence, dans leur vie et dans ce qu'ils ont pu donner de poétique au monde et aux auteurs. Voilà, ça s'appelle « À toute plume », c'est de Cookie Alès, c'est paru chez Art 3, et il y a de très très belles illustrations aussi, je tiens à le préciser, il y a des calligrammes qui illustrent ce livre, et ces calligrammes sont de François Gaud. Thank you.
toujours Radio Libertaire et encore un livre dont j'aimerais vous parler. C'est un livre de Pierre Lepape qui s'appelle « La disparition de Sorel » et qui est paru dans la collection Artois Presse Université. Alors, ce livre, en fait, il a déjà été publié. Il a été publié chez Grasset il y a quelques années. Mais ça va faire un an que Pierre Lepape nous a quittés. Et il tenait particulièrement à cet ouvrage et Michel Gazier, sa compagne de toujours, a souhaité faire en sorte que ce livre, qui n'avait peut-être pas trouvé un public, puisse être de nouveau disponible. Et c'est comme ça que la disparition de Sorel réapparaît. Et moi, j'en suis très contente parce que j'avoue que j'avais loupé ce livre au moment où il était sorti. Pierre Lepape, c'est un grand critique littéraire et c'est aussi un auteur très, très riche, très dense. Moi, il m'a toujours intimidé, Pierre Lepape, et je crois que c'est pour ça que j'ai jamais réussi à l'interviewer. Il y a des gens comme ça où, d'une certaine manière, on est impressionné par leur culture, par leur richesse intérieure et on se dit que jamais on arrivera à trouver les bonnes questions pour parler de leurs livres. Alors, c'est pour ça que la disparition de Sorel résonne d'autant plus maintenant. Et je comprends tout à fait l'intérêt qu'il portait à ce texte et sa volonté d'y revenir encore et encore. Sorel, pour moi, c'était un illustre inconnu. J'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce personnage. C'était un écrivain, Charles Sorel, qui est mort en 1674. Et qui avait eu beaucoup de succès à l'époque avec un ouvrage qui s'appelait « L'histoire comique de Francion », qu'il avait fait dans sa jeunesse et qui était pas une gaudriole, mais qui était un peu dans une veine très très libre, très outrancière, un peu dans un genre rabelaisien, mais bon, sans la dimension rabelaisienne quand même. En tout cas, il était très très loin, j'allais dire, d'une norme puritaine, classique. Et donc ce livre a beaucoup marché. Mais peu à peu, avec l'évolution des mœurs littéraires, avec le fait que, effectivement, le classicisme s'est imposé, que la censure, d'une certaine manière, et le pouvoir absolu sont rentrés en œuvre, il s'est avéré que Sorel a modifié son texte. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « La disparition de Sorel ». Parce que, petit à petit, ce texte s'est vidé de sa substance, jusqu'au point que, à la fin, il ne restait plus rien de cette liberté. Et c'est un sujet assez intéressant. Et ce que nous propose donc Pierre Lepape dans cet ouvrage, c'est lui qui était critique littéraire, qui n'est pas universitaire, qui s'aborde à ce sujet donc de parler d'un auteur sans avoir fait une thèse sur lui. Lui va nous donner à voir aussi ce qu'est la littérature et le pouvoir que l'époque peut avoir sur la liberté des auteurs, sur le fait que être hors norme et faire un pas de côté, c'est parfois compliqué. Et Pierre Lepape, il a toujours fait des pas de côté et il a toujours été libre. Donc cette mise en abîme de ces deux auteurs, moi, m'a intéressée. J'en dirai pas plus sur le livre. Je crois que ça dit beaucoup de choses, c'est absolument passionnant et je vous recommande vraiment de le découvrir. Ça s'appelle donc « La disparition de Sorel », excusez-moi, c'est de Pierre Lepape et c'est reparu chez Artois Presse Université.
Thank you.
Toujours Radio Libertaire, bien sûr, et il est grand temps de retrouver Gérard Guégan pour sa chronique avec des ouvrages qu'il vous recommande et que je vous recommande également. 89,4 MHz, c'est Radio Libertaire. Toujours à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et c'est la chronique du jour de Gérard Guégan à propos d'un ouvrage de Frédéric Schifter que je ne connaissais pas et cet ouvrage s'intitule « Indispensable précis de détestation du travail » et c'est publié aux éditions Le Dilettante. Alors c'est assez drôle parce que Frédéric Schifter c'est quelqu'un qui écrit pas mal quand même, hein. Il publie un certain nombre de livres de manière assez rapprochée. C'est un biarro, alors bah, du coup il m'intéresse. Et en plus, ce sujet est un sujet assez passionnant pour qu'on en parle. Et la forme qu'il a choisie pour parler du travail est aussi intéressante. Et on dira un mot ensuite des illustrations. Alors, tu nous racontes un petit peu comment t'es tombé sur ce livre, toi ?
Schifter, il m'a avoué un jour, grâce à, comment ça s'appelle, Facebook, qu'il avait toute la collection, quasiment toute la collection des champs libres. Donc, c'est un vieux lecteur de champs libres, pourtant, il n'est pas très vieux, mais bon. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir ensuite à quoi il ressemble et ce qu'il écrit. Et j'ai été pris, moi, aussi bien d'ailleurs ce qu'il écrit sur Facebook, c'est souvent drôle, mais ça l'est moins évidemment que ce qu'il écrit quand il vise un livre, quand il s'installe dans la littérature. Et là, c'est vraiment, il y a un vrai talent, et moi je le pensais un peu, comment dirais-je, coupé du reste du monde et des problèmes de société et tout ça, et là, son livre sur le travail, l'esclavage salarié, devrait-on dire, parce que c'est réellement ça pour lui, c'est tout à fait remarquable, à la fois stylistiquement, c'est à la fois cruel, je veux dire, et à la fois drôle. Oui. Alors c'est aussi ce qui contribue à ça, c'est le fait qu'il est confié à
Museau.
Les illustrations qui sont savoureuse, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai retrouvé un objet qui me rappelait ma propre jeunesse, puisque en 1973, j'étais encore à Champs Libres. J'avais publié un livre de quelqu'un qui m'était totalement inconnu, qui s'appelait Yves Le Manac, et le livre s'appelait Bye Bye Turbin, ou des tables trigonométriques et de quelques formules à l'usage des ouvriers métallurgistes. C'est pas tout. Suivi de salauds, on les connaît, vos usines, vos partis et vos syndicats. Bon, évidemment, Raisa avait fait un dessin et on avait fait le livre. Et c'était assez remarquable aussi. Et quand je suis tombé sur le Schifter que j'ai lu au moins deux, sinon trois fois, oui, ensuite je l'ai souvent parcouru pour voir. Il y avait l'ombre de Yves Le Manac. Donc le jour où je verrai ce Schifter, j'essaierai de savoir si je pense qu'il l'a lu. Mais parce qu'en plus il commence par la même chose. Il commence sur la définition du travail qui vient du latin.
Tripalium.
Oui. Et donc c'est la même chose chez
Le Manac.
Voilà. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'un et l'autre, c'est qu'il n'y a pas de côté méprisant. C'est pas méprisant, quoi. C'est pas méprisant, c'est parce qu'ils savent très bien l'un et l'autre que pour gagner sa vie, hélas, il faut travailler. Et que travailler, ça veut dire, en règle générale, avoir un salaire. Se retrouver dans un univers où on n'est pas forcément aussi à l'aise qu'on pouvait l'espérer, même quand cet univers paraissait de loin formidable comme la presse ou l'édition, on se dit « Ah tiens, je vais faire ça, ça va être vraiment bien ». Au bout de quelques temps, on se rend compte que tout ce qu'on avait connu et lu et vu, et pour peu qu'on ait des pères et des mères qui eux-mêmes avaient... C'était vendu au plus offrant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, forcément. Et Donc c'est tout ça, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup, hein, mais vraiment beaucoup, le livre de Shifter, qui m'a fait beaucoup sourire et rire. Et encore une fois, la présence
de Muzo,
est tout à fait remarquable, quoi. C'est-à-dire que ça, voilà. Alors en même temps, tiens, encore tout à l'heure, je voyais ce que Sylvain Tesson, c'est ça, vient d'écrire sur la Notre-Dame de Paris, là, hein, cette chose dont tout le monde parle aujourd'hui et demain. Et c'est quitte à choisir, Shifter, c'est vraiment c'est l'anti-Sylvain Tesson.
Alors, je vais dire un mot quand même à propos du Shifter. C'est un mot sur la manière dont ça se présente, parce que c'est sous forme d'abécédaire, en fait. Il y a des entrées par lettre. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça permet de grappiller un mot ou un autre de temps en temps. Et c'est vrai qu'il aborde la question du travail, mais pas que. Il va beaucoup plus loin, parce que là, j'ai sous les yeux sa définition du mot « intellectuel ». Et je vais me permettre de la lire quand même.
Je me précipite dessus aussi.
Intellectuel, deux points. Écrivain, universitaire, philosophe de médias, qui, en toutes circonstances, défend l'ordre en place, formula-t-il parfois des critiques à son égard sur des points de détail, ou soutient un parti politique candidat au pouvoir, point. Une expression populaire dirait qu'il cherche à être du bon côté du manche. Un intellectuel, en effet, n'est pas un homme engagé, mais est ou sera un emmanché. Voir l'arbina service.
Il y a raison de boss éditeur, son salaire c'est le salaire de la sueur. Il y a raison de boss éditeur, son salaire c'est le salaire de la peur. Faut qu'on les yeux autour de toi, le syndicat se moque de toi. Regarde ce gyros qui lasse, les autres ne sont pas sérieux, c'est à celui qui te pèsera le mieux. Le patronage, je t'en parle même pas, il n'est bon que pour les coups bas. Ça n'y a raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la sueur. Ça n'y a raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la peur. Quand on manif t'as bien raison, là ils te font passer pour un con. Tu verras tout n'est que politique. T'es plus la gueule sous les coups de ric. Tu les captures dans ce régime de flic. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la peur. Mon vieux, ils l'ont roulé. Pour eux, ce n'est qu'un futur retraité. Il est venu dans les primeurs, mais Ségui chante dans le cœur. L'institution n'a plus de valeur. Pratique l'inceste avec ta sœur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la peur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la sueur. T'as bien raison de boss éviteur, ton salaire c'est le salaire de la peur.
Don't
c'est très drôle.
Ah bah oui, oui, oui. Donc, moi, c'est ça qui m'a plu chez lui, c'est ce côté très, à la fois très drôle et en même temps, ça donne à réfléchir.
Oui, et en même temps, juste. Hélas, juste parce que cette société ressemble de plus en plus à ça, et quand on sait, parce qu'en ce moment, je pensais par exemple à la DRH, voilà.
Ouais,
si.
Ouais.
Je ne savais pas ce que c'était, bon, je n'ai jamais connu ça. En revanche, j'ai connu la direction du personnel, c'était au moins très clair, tandis que la direction des relations humaines, des ressources humaines, ça a un côté Rousseau, ça a un côté, allez, retrouvons-nous, buvons une coup, on est tous humains, on est tous ensemble. Et là aussi, il faudrait, mais tu le fais mieux que moi, tu pourrais peut-être lire la direction des ressources humaines.
Je ne l'ai pas là, parce que là, moi, je suis sur stage. Donc,
D'accord, c'est vrai, nous n'avons pas le même livre entre les mains. Bon, voilà, alors je vais le lire. Moi,
vas-y,
bon.
Vas-y.
Ça dit tout de son talent, du talent de Shifter. Direction des ressources humaines, DRH. Jadis appelée direction du personnel, la DRH est ce service chargé du recrutement et du management des salariés. Ses fonctions sont confiées à un esclave zélé, le plus souvent une femme, qui fera passer l'humiliant entretien d'embauche au candidat à l'emploi, administrera la carrière de ses collaborateurs, leurs promotions, leurs sanctions, leurs primes, leurs retenues sur salaire, etc. Veillera à éviter les conflits dus à leur mise en concurrence. Il est aisé de comprendre que, proche du patron, la directrice des ressources humaines, dont le rôle alterne entre le registre de la maman et celui de l'adjudante, sera le cadre supérieur le plus craint et partant le plus haï par les employés subalternes. Gare au chéficide. Le chéficide étant évidemment la tuerie des chefs. On tuera les chefs. On coupe ça. C'est aussi le souvenir, sans doute, de la couverture de Champ Libre à bas les chefs.
Ouais.
Avec, ça disait quelque chose. Voilà. Donc, tout ça fait que, encore une fois, ça pourrait être, parce que j'en ai lu des textes, maintenant, on en produit de moins en moins de textes. L'extrême gauche produit plus de textes, donc il n'y a pas grand chose à lire, mais j'en ai connu des textes et j'en ai lu, et ça se tombait parfois des mains parce que c'était quand même
très chiant.
Et lui, c'est pas ça.
Non, je vais lire Stage parce que c'est drôle aussi. Stage, travail bénévole, dévolu le plus souvent à des jeunes gens et qui leur confère le même statut que celui des esclaves antiques, avec cette différence que leurs maîtres ne sont pas tenus de les vêtir, de les nourrir, de les loger. Et juste en dessous, il y a le dessin de Museau qui dit « Déjà, je te forme et tu voudrais en plus que je te paye. »
Ah oui.
Voilà.
Voilà, oui, ben ça, c'est le... Donc, c'est ça. C'est... On ne va pas redonder...
Non, il faut le découvrir. Il faut le découvrir.
Il faut aller le lire, quoi. C'est vraiment... de toute façon, c'est un objet. Alors, si on peut faire des placements, parce que je connais des lecteurs qui achètent des livres aussi pour les garder et les revendre plus cher un jour, ça vaudra plus cher, tôt ou tard. Enfin, j'ai appris ça dans l'édition. C'est clair et net, quoi. L'association de ces deux personnes, tôt ou tard, ça s'arrêtera. Tôt ou tard, la maison d'édition qui s'appelle quand même Le Dilettante peut-être s'arrêtera, à moins qu'il y ait un héritier en vue. Donc, tout ça va disparaître. Et la société va devenir de plus en plus cette société dont il présente les aspects là. Mais c'est ça, sur l'esclavage salarié, comme on dit. Et en même temps, ce que je voulais dire, voilà, je l'ai oublié de le dire, il se raconte pas une histoire, il sait très bien qu'a priori, même si on peut se tenir à distance de cette société, c'est donc soit on a hérité, on mange l'héritage, soit sinon on est obligé, d'abord au début on peut être chômeur, le chômage rapporte de moins en moins, cela dit, mais après, qu'est-ce qu'on fait?
Mais oui.
On vit. Et ça, c'est pas le côté méprisable qu'on trouve chez les post-situ qui, pour eux, l'ouvrier, tout ça, bon, c'était bien la caricature, mais si tu disais que tu travaillais, je me souviens que la plus grande insulte pour Debord, c'était salarié. Ça me fait sourire, quoi. Ouais. Ça me fait sourire et ça mérite en plus, parce que je trouve ça assez scandaleux de la part de prétendus leaders révolutionnaires. Voilà.
Alors, il faut lire Indispensable précis de détestation du travail, c'est de Frédéric Schifter et c'est chez le dilettante. J'ai tout dit. Merci.
Voilà, c'est toujours Radio Libertaire. On arrive à la fin de cette émission d'idéaux et débats. Je vous rappelle qu'on a entendu Anne Gossidi qui nous parlait de Mille façons d'aimer, son dernier roman paru chez Grasset. Et puis on a parlé de plein d'autres livres. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez tout le détail sur le site de Radio Libertaire. On se retrouve dans 2 semaines pour une émission un petit peu particulière. Ce sera une playlist musicale et puis après ce sera la rentrée de janvier. Mais d'ici là, bien sûr, restez à l'écoute de Radio Libertaire. Portez-vous bien.
Roi du libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débat, livre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée, à tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible, à tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mère. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Radio Libertaire 89.4, le grand soir du mardi, émission proposée par le groupe La Rue de la Fédération Anarchiste. Nous accueillons ce soir Simon Cotin-Marx, sociologue et maître de conférence au CNAM, pour parler de son dernier ouvrage co-écrit avec Baptiste Milondo, qui n'a pas pu être là ce soir. Ce livre s'intitule « Travailler sans patron, mettre en pratique l'économie sociale et solidaire ». Ce livre pose de nombreuses questions. Peut-on se passer de hiérarchie, de chef et de patron ? Peut-on instaurer une organisation libertaire dans l'univers professionnel ? À travers un important travail de recherche, Simon Cotin-Marx et Baptiste Milondo brossent un tableau riche et nuancé de formes organisationnelles, associations, coopératives, mutuelles, significatives de l'économie sociale et solidaire, et dont certaines fonctionnent selon le principe de l'autogestion. Ces formes organisationnelles sont présentées ici comme une alternative au capitalisme libéral. Travailler sans patron nous parle de femmes et d'hommes qui mettent en avant des valeurs de solidarité et d'entraide comme solution aux antagonismes et qui, dans le cadre de leurs activités, mettent en place des pratiques anti-autoritaires fondées sur des principes de liberté individuelle et de démocratie directe. Les auteurs montrent les difficultés propres, mais aussi la force et le pouvoir émancipateur de ces structures. Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes ravis de t'accueillir ce soir à Radio Libertaire. Première question, est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce bouquin ?
Oui, alors d'abord, merci aussi pour l'invitation. Eh bien alors, pour la genèse, en fait, il y en a plusieurs, parce qu'on est deux, on l'a écrit à quatre mains, ce livre. Alors moi, pour ma part, j'ai milité pendant longtemps pour le droit au logement, contre la précarité, et puis en plus divers mouvements sociaux dans des syndicats. Évidemment, j'ai expérimenté les difficultés de l'autogestion. Et Baptiste aussi, qui est un économiste décroissant, mais qui a aussi une carrière, il a aussi travaillé dans des coopératives, notamment dans des coopératives de distribution alimentaire.
Il est prof à Sciences Po Lyon, je crois.
Il est prof à Sciences Po Lyon, mais il a une multitude d'activités. Voilà, il n'est pas titulaire encore, et on espère qu'il le sera un jour. Et alors, du coup, le livre, en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Et en fait, de mon côté, en fait, un jour, je lui ai expliqué que à l'époque, je présentais un autre livre qui s'appelle « C'est pour la bonne cause, les désillusions du travail associatif ». En fait, c'est un livre où j'interroge, je me demande pourquoi en fait les conditions de travail dans le monde associatif sont moins bonnes qu'ailleurs. Hein, dans le monde associatif, hein, donc c'est 1,8 million de salariés, enfin surtout des femmes. Hein, et ce qu'on observe, c'est que les salaires sont plus bas. Les cadres gagnent 14 à 30% de moins que dans le secteur privé ou dans le secteur public. Il y a le temps partiel est beaucoup plus développé et souvent subi. Il y a beaucoup plus de CDD. Hein, le CDD, le contrat à durée déterminée, c'est la norme et non pas le CDI. Bref, tout ça. Ça nous fait dire que dans le monde associatif, c'est le salariat atypique qui est typique. Donc ça, c'est un autre sociologue qui dit ça, c'est Mathieu Ely. Voilà, donc moi, je suis parti de ce constat-là. J'ai étudié pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, les conditions de travail dans les assos sont moins bonnes. Donc du coup, il y a des causes externes. Hein, clairement, elles sont mal financées, elles sont positionnées sur des secteurs qui sont mal financés par la puissance publique. Et aussi, il y a des facteurs internes. Le fait de travailler avec des bénévoles pour la cause et aussi pour des patrons et des employeurs, en fait, qui sont eux-mêmes des bénévoles et qui ont du mal à prendre en charge la fonction employeur, prendre en charge leurs responsabilités. En fait, ce livre, je l'ai présenté une cinquantaine de fois, hein, dans des librairies, devant des syndicats, sauf qu'à la fin, les gens, ils étaient ou soit complètement déprimés ou hyper en colère. Et je me suis dit, oula, en fait, je pose un constat qui est un peu violent, qui m'énerve et qui me donne envie de m'engager, et c'est ce que j'essaye de faire et de transmettre quand je le présentais ce livre. Mais en même temps, je me suis dit, le livre est fini aussi avec une troisième partie où il y a quelques solutions. Et en fait, ces solutions, je ne les avais pas complètement explorées. Et du coup, je me suis dit, comment on fait, hein, en fait, pour s'organiser dans une organisation associative ou autre, hein, sans patron. Et du coup, ce livre, c'est la réponse, en fait. C'est un livre de solutions. En tout cas, on espère que c'est un livre de solutions. Il y a aussi beaucoup de problèmes dedans.
En fait, vous brossez un tableau historique aussi dans ce bouquin, Baptiste et toi. L'économie sociale et solidaire est donc très ancienne. Quand est-ce qu'elle est née et pourquoi ?
Alors, l'économie sociale et solidaire, donc, c'est un concept hein, qui est né assez récemment finalement, parce qu'on parle d'économie sociale et solidaire seulement depuis les années 2000. Avant, on parlait d'économie sociale. Clairement, enfin, il y a plusieurs généalogies. On peut faire remonter l'économie sociale et solidaire, enfin, finalement, au pharaon, hein, au Moyen Âge, comme Jean-François Drapry. Nous, on regarde plutôt, on se dit, bah, il y a plusieurs histoires de l'ESS. Hein. Quand je parle d'ESS, c'est pour parler d'économie sociale et solidaire. Mm-hmm. Et il y en a une, notamment ouvrière. Voilà, il y a les associations ouvrières qui ont créé de la solidarité. La solidarité contre les risques du travail, contre la pauvreté, contre la vieillesse. Voilà. En gros, le monde ouvrier s'est organisé au moment de l'industrialisation, donc au 19e siècle, en France, mais aussi partout dans le monde, voilà, pour créer de la solidarité ouvrière. Donc ça, c'est une des branches de l'économie sociale et solidaire. Mais il y en a une autre aussi, plus philanthropique, qui est plus héritée du patronage. Voilà. Et en gros, on a ces deux grands courants. Un qui vient du monde ouvrier, puis un autre qui vient plutôt de la bourgeoisie, hein, mais qui était plutôt sociale, on va dire, les cathos de gauche, on dirait aujourd'hui, la bourgeoisie un peu sociale. Et ces deux courants, ils se sont rapprochés.